Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 8, De l'éternité du mouvement. Chapitre 1er, sommaire. Questions diverses sur la durée du mouvement, éternelle ou créée. Si l'on nie l'éternité du mouvement, deux systèmes possibles. Celui d'Anaxagore et celui d'Empédocle. Hypothèse de l'éternité du mouvement. Difficulté résultant de cette hypothèse. Argument en faveur de cette opinion. Démocrite. Tous les philosophes ont admis que le temps est éternel. Platon seul a cru que le temps a été créé. Réfutation de cette opinion. Le mouvement est éternel comme le temps. Insuffisance du système d'Empédocle et même de celui d'Anaxagore. Ordre immuable de la nature. Démocrite a tort de se borner à la simple observation des faits. Dans certains cas, on peut remonter jusqu'à la cause. Paragraphe 1. Le mouvement a-t-il commencé à un certain moment avant lequel il n'était pas? Cessera-t-il un jour de même qu'il a commencé, de façon que rien ne doive plus se mouvoir? Ou bien doit-on dire qu'il n'a point eu de commencement et qu'il n'aura pas de fin? Doit-on dire qu'il a toujours été et qu'il sera toujours immortel, indéfectible pour toute chose? Et comme une vie qui anime tous les êtres que la nature a formés. Paragraphe 2. Tous les philosophes qui ont étudié la nature ont admis l'existence du mouvement, parce qu'ils s'occupaient de la question de l'origine du monde, et que toutes leurs théories roulent sur la génération et la destruction des choses, qui ne peuvent être si le mouvement n'est pas. Paragraphe 3. Quand on soutient que les mondes sont infinis et que les uns naissent tandis que les autres s'éteignent et périssent, on n'en admet pas moins l'existence éternelle du mouvement. Car les mondes ne peuvent naître et périr qu'à la condition nécessaire du mouvement. Ceux même qui n'admettent qu'un seul monde ou qui supposent qu'il n'est pas éternel font également sur l'existence du mouvement des hypothèses conformes à leur système. Paragraphe 4. Lorsqu'on suppose qu'il y a eu un temps où il n'y avait point de mouvement, d'aucun genre, il n'y a que deux manières nécessairement de comprendre cette opinion. Ou bien, comme Anaxagore, il faut dire que toutes les choses étant confondues et dans le repos, durant un temps infini, c'est l'intelligence qui leur a communiqué le mouvement et les a ordonnés. Ou bien, comme Empédocle, il faut penser que les choses ont tantôt le mouvement et tantôt le repos. Le mouvement, quand de plusieurs choses, l'amour n'en fait qu'une. Ou, quand d'une seule, la discorde en fait plusieurs. Le repos, dans les intervalles de temps qui séparent l'action de l'amour et de la discorde. Voici les expressions mêmes d'Empédocle. En sachant ramener leur foule à l'unité, puis quittant l'union pour la diversité, ils vont sans que le temps ou les gêne ou les presse. Et comme en aucun d'eux le changement ne cesse, dans ce cercle immuables, ils se font éternels. Quand il dit « le changement ne cesse », Empédocle veut exprimer sans doute que les êtres passent d'une forme à l'autre. Paragraphe 5. Examinons ce qu'il en est réellement de ces problèmes, car il importe de découvrir la vérité en ces matières, non pas seulement pour l'étude de la nature, mais en outre pour la science du principe premier des choses. Paragraphe 6. Commençons tout d'abord ici en partant des définitions que nous avons posées antérieurement dans notre physique. Nous disons donc que le mouvement est l'entéléchie ou la réalisation du mobile en tant que mobile. Par une conséquence nécessaire, il faut supporter l'existence préalable des choses qui peuvent être mues selon une espèce quelconque de mouvement. Sans même s'arrêter à cette définition du mouvement, il n'est personne qui ne convienne que nécessairement ce qui peut être mu selon une des diverses espèces du mouvement doit, d'une manière générale, être capable d'être mu. Par exemple, il faut nécessairement que ce soit un objet susceptible d'altération qui s'altère, et que ce soit un objet qui peut changer de lieu, qui subisse la translation dans l'espace, absolument comme il faut que le combustible existe avant qu'il n'y en ait combustion, et comme il faut que ce qui peut brûler existe avant qu'il ne brûle. Paragraphe 7. Par conséquent, il faut nécessairement aussi, ou que les choses naissent à un certain moment donné, avant lequel elles n'existaient pas, ou bien qu'elles soient éternelles. Paragraphe 8. Si donc on admettait que tous les mobiles et les moteurs sont nés à un certain moment, il faudrait de toute nécessité qu'il y eût eu, antérieurement au mouvement dont on s'occupe, un autre changement et un autre mouvement relativement auquel serait né et le mobile qui peut être mu et le moteur qui peut mouvoir. Paragraphe 9. Mais si l'on suppose que les moteurs et les mobiles ont éternellement existé sans qu'il y eût de mouvement, on voit sur le champ les étranges conséquences qui sortent de cette opinion pour peu qu'on la presse. Paragraphe 10. Mais en poussant encore un peu plus loin, ces conséquences ne sont pas moins nécessaires. En effet, si parmi les choses qui sont, les unes susceptibles de recevoir le mouvement et les autres capables de le communiquer, il faut qu'il y ait soit d'une part un premier moteur et d'autre part un premier mobile, soit, en l'absence de l'un et de l'autre, un absolu repos. Il en résulte que nécessairement, il y a eu un changement antérieur, car il y avait bien une cause à ce repos, puisque le repos n'est que la privation du mouvement. Donc, avant le premier changement, il y aura déjà eu un changement antérieur. Paragraphe 11. Certaines choses, en effet, ne produisent qu'une seule espèce de mouvement. D'autres produisent les mouvements contraires. Ainsi, le feu échauffe et ne refroidit pas, tandis que la science des contraires paraît être une seule et même science. Ici, il y a bien quelque chose de semblable, car le froid, considéré d'une certaine manière, en se retirant peut échauffer, de même que celui qui sait une chose peut commettre une erreur volontaire en employant à rebours la science qu'il possède. Paragraphe 12. Mais toutes les choses qui sont susceptibles d'agir, de souffrir et de mouvoir, et celles qui sont susceptibles d'être mues, ne le sont pas toujours et dans tous les cas. Elles ne le sont que dans certaines conditions, et il faut par exemple qu'elles soient proches les unes des autres. C'est en se rapprochant que l'une meut et que l'autre est mue. Et quand les choses s'arrangent de façon que l'une soit susceptible d'être mue et l'autre capable de mouvoir. Paragraphe 13. Si donc le mouvement n'a pas toujours eu lieu, il est clair que c'est que les choses n'étaient pas disposées de telle sorte que l'une pût mouvoir et que l'autre pût être mue, mais qu'il a fallu nécessairement que l'une des deux vînt à changer. C'est là, en effet, une nécessité absolue pour tous les relatifs. Et par exemple, si une chose qui n'était pas le double d'une autre en est actuellement le double, il faut bien que l'une des deux choses, tout au moins, si ce n'est les deux, ait éprouvé un changement. Il y aura donc ainsi un changement qui sera antérieur même au changement qu'on croyait le premier. Paragraphe 14. Mais outre cette impossibilité, comment encore concevoir qu'il puisse y avoir antérieur et postérieur s'il n'y a pas de temps? Ou bien comment y aura-t-il du temps s'il n'y a pas de mouvement? Paragraphe 15. Mais comme le temps n'est certainement que le nombre du mouvement ou un mouvement d'une certaine espèce, du moment que le temps est éternel, il y a nécessité que le mouvement soit éternel comme lui. En général, tous les philosophes, si l'on en excepte un seul, semblent, il faut en convenir, unanimes dans leur système sur le temps. Tous le regardent comme incréé. Et c'est même en soutenant que le temps n'a point été créé que Démocrite essaie de démontrer qu'il est impossible que l'univers ait jamais pu l'être. Il n'y a que Platon qui admette la création du temps. Le temps est né, selon lui, avec le ciel, car il dit que le ciel a pris naissance. Si donc l'existence et la conception même du temps sont impossibles sans l'instant, et que l'instant soit une sorte de moyen terme, réunissant tout à la fois un commencement et une fin. Le commencement du temps futur et la fin du temps passé. Il faut nécessairement que le temps soit éternel, car le bout du temps qui est considéré le dernier sera dans un certain instant, puisqu'il n'y a pas moyen dans le temps de saisir autre chose qu'un instant. Et comme l'instant est à la fois commencement et fin, il est clair qu'il y a toujours du temps des deux côtés de l'instant. Mais si le temps existe, il n'est pas moins clair que le mouvement existe aussi, puisque le temps n'est qu'un mode du mouvement. Paragraphe 16. Le raisonnement serait le même pour démontrer que le mouvement est indestructible. Paragraphe 17. De même qu'en cherchant à expliquer l'origine du mouvement, on en arrivait à cette conclusion qu'il y a un changement antérieur même au changement premier, de même aussi, il faudra supposer dans ce nouveau cas qu'il y a un changement postérieur même au dernier changement. Car ce n'est pas du même coup que l'objet cessera d'être mu et d'être mobile, par exemple d'être brûlé et d'être combustible, puisqu'il se peut fort bien qu'un objet combustible ne soit pas brûlé. Et ce n'est pas non plus du même coup que l'objet cessera de mouvoir et d'être capable de mouvoir. Paragraphe 18. De même aussi, le destructible devra avoir été détruit avant d'être détruit. Et ce qui le détruit devra encore exister après lui, puisque la destruction n'est qu'une espèce de changement. Paragraphe 19. Mais si tout cela est impossible, il est évident que le mouvement est éternel. Et il ne se peut pas que tantôt il soit et que tantôt il ne soit point. Paragraphe 20. Avancer en effet cette dernière opinion, ce n'est, je le crains bien, qu'une pure rêverie. Paragraphe 21. Il n'y a pas plus de raison à soutenir que c'est la nature qui le veut ainsi, et que c'est là ce qu'on doit regarder comme le principe des choses, ainsi qu'Empédocle semble le prétendre. Quand il dit que l'amour et la discorde dominent tour à tour et donnent le mouvement aux choses, par une nécessité inhérente à leur nature, et que dans l'intervalle de leur lutte, il y a le repos. Paragraphe 22. C'est bien là encore ce que sont tout près de dire ceux qui, comme Anaxagore, ne reconnaissent qu'un seul principe. Paragraphe 23. mais il n'y a jamais de désordre dans les choses qui sont de nature et selon la nature, car la nature est dans tous les cas une cause d'ordre et de régularité. L'infini ne peut jamais avoir de rapport rationnel avec l'infini, tandis que l'ordre est toujours un rapport et une raison. Mais qu'après un repos qui a duré un temps infini, commence ensuite, par hasard, le mouvement, et qu'il n'y ait pas plus d'importance à ce qu'il en soit ainsi plutôt maintenant qu'auparavant, sans qu'il y ait eu d'ailleurs aucun ordre antérieurement, ce n'est plus là une œuvre de la nature. Car, ou bien ce qui est par nature est d'une manière absolue, sans être tantôt de telle manière et tantôt de telle autre, comme le feu par exemple, qui naturellement se dirige toujours en haut, et sans qu'il soit jamais possible que tantôt il s'y dirige et tantôt il ne s'y dirige pas. Ou bien, ce qui n'est pas absolu dans la nature a du moins une cause rationnelle. Paragraphe 24. Il vaudrait mieux donc encore supposer, comme l'a fait Empédocle ou tel autre philosophe, que tour à tour l'univers est en repos et qu'il reprend ensuite le mouvement. Car cette succession alternative de phénomènes implique déjà un certain ordre régulier. Paragraphe 25. Mais il ne faut pas, quand on avance de telles idées, se contenter d'affirmer simplement ce qu'on dit. Il faut tâcher aussi d'en expliquer la cause. Et au lieu de se borner à une hypothèse gratuite et de poser un axiome déraisonnable, il faut en appeler à l'induction ou en apporter la démonstration. Paragraphe 26. Les hypothèses admises par Empédocle ne sont pas des causes. Et ce n'est point là le rôle essentiel de la discorde et de l'amour, puisque l'un réunit les choses et que l'autre au contraire les divise. Que si l'on parle de leur succession alternative, encore faut-il dire à quelle chose cette succession s'applique, comme on dit que parmi les hommes, il y a quelque chose qui les rapproche, c'est l'amitié. Et qu'il est bien vrai que les ennemis se fuient mutuellement. Alors, on imagine qu'il en est de même dans l'univers, parce qu'en effet, il est certains cas où les choses se passent réellement ainsi. Mais il faudrait bien expliquer, en outre, comment ce phénomène peut s'accomplir dans des temps égaux et réguliers. Paragraphe 27. En général, admettre que ce soit un principe et une cause suffisante d'un fait de dire que ce fait est toujours ou qu'il se produit toujours de telle ou telle manière, ce n'est pas du tout satisfaire la raison. C'est là cependant à quoi Démocrite réduit toutes les causes dans la nature, en prétendant que les choses sont actuellement de telle manière et qu'elles y étaient antérieurement aussi. Mais quant à la cause de cet état éternel, il ne croit pas devoir la rechercher, ayant bien d'ailleurs raison, à certains égards, mais ayant tort de vouloir appliquer ce principe à tout. Ainsi, le triangle a éternellement ses angles égaux à deux droits, et pourtant, on peut bien trouver une autre cause à cette propriété éternelle du triangle. Tandis qu'il y a, en effet, des principes qui, étant éternels, n'ont absolument aucune autre cause. Paragraphe 28. Mais que ceci suffise pour démontrer que le temps n'a pu exister et ne pourra exister qu'à la condition que le mouvement ait existé ou doivent exister tout comme lui. Chapitre 2. Sommaire. objections qu'on peut opposer à l'éternité du mouvement. Elles sont au nombre de trois. Tout changement a pour limite les contraires dans lesquels il se passe. Les êtres inanimés reçoivent le mouvement du dehors. Les êtres animés se le donnent. Réponse à ces objections, théorie du mouvement dans les êtres inanimés, où il est peut-être moins spontané qu'il ne le paraît. Paragraphe 1. Il n'est pas difficile de répondre au principe qu'on opposerait à ceux qui viennent d'être développés. Et voici les principaux arguments par lesquels on pourrait démontrer que le mouvement s'est produit à un certain moment sans du tout avoir antérieurement existé. Paragraphe 2. D'abord, il n'y a point de changement qui soit éternel, parce que naturellement, tout changement va d'un certain état à un certain état, et par une conséquence nécessaire, tout changement a pour limite les contraires dans lesquels il se passe. Il n'y a donc pas de mouvement qui puisse aller à l'infini. Paragraphe 3. En second lieu, on peut se convaincre par l'observation qu'un objet qui n'est pas mu actuellement et n'a en soi aucun mouvement peut être mu à un certain moment. Par exemple, les êtres inanimés, pour lesquels, sans qu'une partie ni le tout se meuve, et restant au contraire immobile, il peut y avoir mouvement à un certain moment donné. Mais si le mouvement ne peut pas naître et sortir du néant, il faut dire alors ou que le mouvement est éternel ou qu'il est éternellement impossible. Paragraphe 4. Ceci, du reste, est évidemment bien plus sensible encore dans les êtres animés, et nous le voyons par nous-mêmes, car, bien qu'il n'y ait en nous aucun mouvement, et qu'à ce moment nous soyons en repos, néanmoins, nous nous mettons en mouvement, et c'est en nous-mêmes que nous trouvons alors le principe du mouvement qui nous fait agir, sans qu'il y ait la moindre intervention du dehors. Mais nous ne pouvons pas en dire autant pour les choses inanimées qui ne sont jamais mues que par une cause extérieure. Pour l'être animé, au contraire, nous disons qu'il se meut lui-même, attendu que, s'il demeure parfois dans un absolu repos, il se produit aussi en lui un mouvement qui ne vient que de lui seul et où le dehors n'est pour rien. Mais si ce phénomène peut se passer dans l'animal, pourquoi ne se passerait-il pas aussi tout à fait de même dans l'univers? Si c'est possible dans le petit monde, ce l'est également dans le grand. Et si c'est possible dans le monde, c'est possible aussi dans l'infini, si toutefois l'infini peut ou se mouvoir tout entier ou demeurer tout entier en repos. Paragraphe 3. De ces divers arguments, le premier dont nous avons parlé et qui consiste à dire que le mouvement qui va aux opposés ne peut pas être éternellement le même, et numériquement un, ce premier argument est très vrai. On peut même trouver qu'il y a en ceci nécessité absolue, puisqu'une seule et même chose ne peut avoir un mouvement qui soit un et toujours le même, numériquement. Je cite un exemple, et je demande si le son d'une seule corde est toujours un seul et même son, ou si c'est toujours un son différent, tant qu'elle reste semblable et semblablement mue. Mais, quoi qu'il en soit de ceci, rien n'empêche que le mouvement ne soit un et le même en étant continu et éternel. C'est ce que l'on verra plus clairement par ce qui va suivre. Paragraphe 6. Il n'y a rien d'absurde à dire qu'un corps qui qui n'était pas en mouvement peut y être mis, selon que le moteur extérieur tantôt existe et tantôt n'existe point. Mais il faut examiner à quelles conditions cela est possible. Je dis donc que la même chose peut tantôt être mue par le même moteur capable de la mouvoir et tantôt ne l'être pas. Cela revient absolument à rechercher comment il se fait que les choses ne sont pas toujours en repos ou toujours en mouvement. Paragraphe 7. Quant au troisième argument, c'est celui qui peut surtout embarrasser. Quand on voit que dans les êtres animés, le mouvement se produit tout à coup, sans y avoir antérieurement apparu. L'être est en repos, puis tout à coup il marche, sans qu'aucune cause extérieure l'ait mise en action, du moins à ce qu'il semble. Mais c'est là une erreur. Dans l'animal, il y a toujours quelqu'un des éléments naturels dont il est formé qui est en mouvement. Or, ce n'est pas l'être lui-même qui est cause du mouvement de ces éléments, et c'est peut-être le milieu qui l'enveloppe. Nous ne disons pas que ce soit l'être lui-même qui puisse se donner toute espèce de mouvement, mais nous n'entendons désigner que le mouvement dans l'espace. Or, il se peut fort bien, et peut-être même est-il nécessaire, qu'il se passe dans le corps une foule de mouvements causés par tout ce qui l'environne. Ces mouvements agissent à leur tour sur la pensée et sur le désir, qui met alors lui-même en mouvement l'être entier. C'est ce qu'on voit bien dans les phénomènes du sommeil. L'animal s'éveille sans qu'il y ait de mouvement sensible, bien qu'il y ait pourtant un mouvement d'un certain genre. Mais ce que nous allons dire éclaircira tout ceci.